Je vous invite à ouvrir votre Bible en Luc chapitre 9 et on va lire les versets 57 à 62. Verset 57, il est dit « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, à Jésus, hein, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux qui sont dans ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Un texte très dur, vous allez comprendre au fur et à mesure de ce que va parler ce matin. On va parler de suivre Jésus ou... On parle aussi de la consécration du disciple. Quand on regarde les chrétiens globalement, si on fait un constat, il y a peu de chrétiens qui sont consacrés réellement au Seigneur. La vie d'église, par exemple, est une option. La vie de prière, peut-être personnelle, n'est pas régulière. L'étude de la Bible, on ne sait même pas ce que c'est. Mais c'est le constat qu'on peut souvent faire. Et comment on peut se dire disciple de Jésus-Christ si finalement je ne suis pas Jésus-Christ, ou du moins je ne fais pas ce qu'il me demande? Là, j'ai une espèce de comparaison entre le maître et le disciple. Hein. Et, par exemple, quand on regarde le maître, notre Seigneur, Jésus est tous les jours avec son disciple, disponible en tout temps. Amen. C'est vrai. Jésus est disponible tous les jours dans sa parole pour enseigner son disciple. Il nous attend. Jésus prie tous les jours pour son disciple, même quand tout va bien. Souvent, nous, c'est l'inverse. Jésus sert son disciple en toutes circonstances. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que Jésus vous aime? Maintenant, on regarde le disciple. Ça va être moins drôle. Le disciple va en moyenne 2 fois par mois à l'église, quasiment jamais aux études bibliques, aux réunions de prière. Le disciple, en moyenne, lit sa Bible à l'occasion. Le disciple prie quand il en a besoin, ou quand il est dans vraiment besoin de secours. Le disciple ne sert que très peu à l'église, puisqu'il n'y va pas régulièrement, forcément. Quelle conclusion on peut tirer de ça? Est-ce qu'il aime son maître? C'est la question qu'on peut se poser dans notre cœur ce matin, et je pense qu'à travers ce texte, le Seigneur veut nous montrer qu'il y a un prix à payer d'être disciple et de se consacrer pleinement. La première des choses qu'il faut faire, il y aurait d'autres choses, mais je n'ai pas le temps ce matin, c'est chasser toutes nos excuses. Et on va voir 3 belles excuses ce matin au travers de ces 3 hommes qui ont approché Jésus ou que Jésus a appelé à un moment. La première excuse, ou plutôt l'idée, c'est que si je veux suivre Jésus, ça coûte un prix. Ça coûte quelque part. Alors, il y a un scribe qui va s'approcher de Jésus, et il va volontairement, et il veut le suivre, donc c'est lui qui décide. Alors, les scribes, c'était des gens qui étaient lettrés, intellectuels, hein, chargés de transcrire la loi et d'autres textes, qui c'est sacré à ce moment-là. Les scribes étaient souvent des gens qui censuraient aussi Jésus ou sa manière de vivre, et tous les disciples, c'était pas vraiment des copains, on va dire, de Jésus. Et ils étaient aussi, avec d'autres, mais les artisans de la mort de Jésus-Christ sur la croix, eux n'aimaient absolument pas Jésus. Pas du tout, il dérangeait. Mais là, parce que si on lit dans Matthieu, il semblerait que ce scribe était un disciple de Jésus-Christ. Donc, quelle merveilleuse chose hein, d'avoir un scribe qui se convertit certainement. Enfin, on ne sait pas s'il est converti, mais en tout cas qui se veut de suivre Jésus-Christ. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il voulait suivre Jésus? Lui qui était scribe, c'était déjà un bon niveau. Beaucoup pensent que peut-être il suivait Jésus comme un rabbin, hein, quelqu'un de bien connu, et donc on voulait être juste le disciple de ce rabbin qui était bien connu, de Jésus-Christ, évidemment, la fierté de suivre le maître. Hein. Mais évidemment, Jésus, ce n'est pas un rabbin, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme, comme il l'appelait aussi. C'est Dieu en personne, tout simplement. Et le suivre, ce n'est pas suivre un rabbin. Il désirait suivre Jésus, mais peut-être qu'au départ, il n'avait pas vraiment compris le prix qu'il devait payer. Hein, il dit « Je te suivrai partout ». On se souvient de Pierre, futur apôtre, qui disait « Moi, j'irai avec toi à Jérusalem, je suis prêt à mourir ». Et le jour où il fallait faire, qu'est-ce qu'il a fait ? Taillot. Il est prêt à suivre le maître, l'intention est bonne quelque part, mais lui, il ne savait pas que le maître allait jusqu'à Golgotha, jusqu'à la croix, et allait mourir, et que ça allait être compliqué. Est-ce que nous avons compris vraiment le prix à payer pour suivre Jésus-Christ? Belle histoire, là, ça s'appelle la piste indienne, et vous allez comprendre pourquoi. Au siècle dernier, un voyageur avait pris un guide indien pour traverser une région de l'Amérique du Nord particulièrement difficile. On était en hiver, la neige était tombée avec abondance et recouvrait le sol. Soudain, le voyageur aperçut sur la neige des traces de pas très nettes. Quelqu'un a dû passer là tout seul, dit-il au guide. Qui a pu s'aventurer ainsi dans cette solitude ? Oh, répliqua l'Indien, détrompe-toi, homme blanc. Toute une troupe est passée par là. Mais répondit le voyageur, stupéfait, ce n'est pas possible. Je ne vois que les traces d'un seul homme. Le guide sourit de l'étonnement de son client. Homme blanc, tu ignores que quand les Indiens se déplacent, ils vont les uns derrière les autres. Le chef va en premier, le second met ses pieds dans l'empreinte laissée par le chef, le troisième fait de même, et ainsi de suite jusqu'au dernier, de sorte qu'on ne voit qu'une seule empreinte de pas, là où toute une tribu est passée. Ne croyez-vous pas que la piste indienne devrait être le modèle de la piste chrétienne ? Christ le chef va d'abord dans son église, et chaque chrétien ne devrait-il pas veiller à mettre ses pas dans l'empreinte de ceux de son divin modèle ? Quand on regarde nos pistes, parfois, il y a des milliers de pas qui partent dans toutes les directions. On devrait tous suivre, normalement, notre Seigneur. Donc ce scribe veut suivre le Seigneur. Mais Jésus va lui répondre. Les renards et les tanières n'ont-ils pas ? Il est en train de lui expliquer que suivre Jésus, ça va impliquer un prix. Et le prix, c'est la consécration. Là où va le maître, là va le disciple. C'était très bien vendredi soir pour ceux qui étaient avec nous. On a parlé de la réforme, voir depuis comment les protestants ont souffert pendant cette réforme. Ils étaient dans les galères, ils ont souffert un tas de choses abominables. 38 ans dans une prison, ça vous dit. Mais ils ont suivi le maître. Ils ont compris le prix de la consécration. C'est ça aussi le prix de la consécration. Ça coûte cher de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas impossible, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça coûte cher. Et Jésus veut rappeler ça à celui qui veut le suivre. D'accord, tu veux me suivre, mais rappelle-toi que tu es voyageur sur la terre. Et qu'il va falloir me suivre dans toutes les circonstances, si tu le veux. Il ne refuse pas le scribe, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il lui rappelle simplement que s'il s'engage avec lui, c'est un peu comme dans le mariage. On ne se marie pas en disant que dans 3 semaines, je vais quitter ma femme, ou dans 3 mois, ou dans 3 ans, ou dans 30 ans. On s'engage avec le Seigneur et on veut lui rester fidèle. Il ne rejette pas non plus ce disciple, mais Christ est réaliste. Lui, il sait ce qu'il attend. Il savait. Et il veut que le disciple aussi soit réaliste par rapport à cette vie chrétienne qui n'est pas toujours facile à vivre. Pas impossible, parce que sinon on va tout sortir, mais qui n'est pas toujours facile à vivre. Parce que suivre Jésus, ça change la vie. Au salut, ça c'est clair, parce qu'on passe de l'ancienne vie à la nouvelle vie, mais après ça va changer aussi le reste de ma vie, mon quotidien. Je ne suis pas attaché à la vie, enfin j'espère, pas attaché à mes biens, et je suis prêt à suivre le Seigneur. En France, ça va, c'est tranquille, mais aller dans d'autres pays, ce n'est pas évident. Mais c'est ça, la consécration. Pour nous, aujourd'hui, pourquoi on suit le Seigneur ? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi j'ai envie de suivre Jésus ? Parce qu'il est connu, prestige dans le monde, peut-être par religion tout simplement, comme beaucoup le font, par superstition, j'ai peur d'aller en enfer, je ne sais pas. Il y a plusieurs manières de suivre Jésus-Christ, mais celui qui veut vraiment le suivre doit se consacrer réellement. Avons-nous compris le prix de la consécration ? Quelqu'un écrivait, la consécration est totalitaire, elle ne souffre d'aucune restriction. Tout est mis sur l'autel, à son entière disposition, à commencer par la totalité de ma personne. Tout mettre sur l'autel est un culte logique conforme à ce que la raison demande. En effet, une consécration totale à Dieu est la conséquence logique, raisonnable, normale du don total de Dieu lui-même en Jésus-Christ, allant jusqu'à la mort de la croix. Ne pas tout donner à celui qui a tout donné est tellement irrationnel. Jésus a donné tout, plus même que le tout, on pourrait dire, quelque part. Mais si lui a tout donné, si lui est le maître, le disciple n'est pas plus que le maître, il dit ailleurs. Et donc nous aussi, on est appelés à tout donné, comme lui a tout donné. Si ma relation avec le Seigneur est laborieuse, si j'ai du mal dans ma relation avec lui, à l'église, etc., vous croyez que vous êtes prêt à mourir pour lui ? Honnêtement, je le souhaite à personne, mais ça arrivera peut-être, et il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'on est vraiment prêt à mourir aujourd'hui pour Jésus-Christ ? Si je n'ai pas de relation avec lui, vous fuirez, comme beaucoup le font souvent. Je ne dis pas que j'y arriverai non plus, mais ma relation aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important. Ma consécration aujourd'hui me permettra d'aller jusqu'au bout aussi. À réfléchir. Nous voulons tous suivre Jésus-Christ, ça j'en suis certain. Mais comment on le suit ? Et est-ce qu'on le suit comme lui nous demande de le suivre ? Parce que bien souvent, le chrétien se crée sa propre vision de suivre Jésus-Christ. Et des fois, c'est plutôt cool. Mais là, Jésus parle de consécration. C'est pas cool, la consécration. Un deuxième homme va venir et il va vouloir suivre Jésus, mais Jésus n'est pas une priorité pour lui. Mais là, cette fois, c'est Jésus qui appelle le deuxième homme. Viens, suis-moi. Vous êtes dans la rue, puis Jésus vous dit, viens, suis-moi. Contrairement au premier disciple, cette fois, c'est pas l'intention du disciple, mais c'est cette fois l'appel que Dieu fait à un disciple, ou à une personne en tout cas. Et le Seigneur l'invite à le suivre, comme lui-même nous invite tous les jours à le suivre. On est appelé à le suivre. Et pour le maître, le suivre, ce n'est pas une option. Jésus ne dira jamais, bon, un jour tu peux, un jour tu ne peux pas, ou quand tu seras prêt, peut-être tu pourrais me suivre. Ce n'est pas une option. Il veut qu'on le suive tous les jours. Et suivre Jésus, ça se fait au quotidien. Il y a le lundi, je suis Jésus. Il y a le mardi, je suis Jésus. Il y a le mercredi, je vais les faire tous, hein, juste pour que... Mercredi, je suis Jésus. Jeudi, je suis Jésus. Vendredi, je veux suivre Jésus-Christ. Samedi, je veux suivre Jésus-Christ. Bon, le dimanche, ça va, généralement, on suit Jésus-Christ, à peu près. Mais c'est tous les jours qu'on veut suivre Jésus-Christ. Tous les jours. Et si on essaie un peu de voir comment Jésus définit le disciple, hein, il y aurait beaucoup de choses à partager, mais là, je fais une espèce de... Le disciple, c'est quelqu'un qui doit être enseigné. Il ne peut pas être un disciple avec un maître sans jamais être enseigné. Et l'enseignement, on a peut-être nos cultes personnels, mais ça ne suffit pas. Déjà, si on ne l'a pas, ça ne suffit pas. Mais si on le fait, ça ne suffit pas. Et Jésus a décidé de créer l'Église pour être enseigné, pour apprendre à le connaître, comme on a vu tout à l'heure, avoir soif, avoir envie d'apprendre à le connaître davantage. Je ne sais pas si vous diriez à vos enfants, allez de temps en temps à l'école. Bon, les enfants, ils seraient contents. Est-ce que vous auriez... la logique de dire ça à vos enfants si vous voulez qu'ils soient éduqués. Personne ne le fera. Pourtant, nous-mêmes, nous nous acceptons de temps en temps de dire « Je vais de temps en temps à l'église pour être enseigné. » C'est curieux. On ne l'accepte pas pour les enfants, mais pour nous-mêmes, on l'accepte. Le disciple se reconnaît parce qu'il a soif de la parole de Dieu. Il a envie de connaître un peu plus. Je pense que personne ne connaît toute la Bible ici. Même pas moi, hein, je vous rassure. Et donc... soif de connaître cette parole, soif de mieux connaître Dieu, soif de connaître qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il peut, etc. pour moi. Et c'est comme ça que tout doucement, eh ben, je vais pouvoir être fort avec lui dans toutes les circonstances. Mais ce disciple-là a des excuses, et certainement que nous-mêmes, on se reconnaît dans des excuses. Hein. Il dit « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père ». Alors, l'enterrement durait environ 24 heures à l'époque. Il y avait une semaine ensuite de cérémonie. Hein, et la Bible nous dit que ça incombait au fils de faire l'enterrement. Il ne reprend pas ça, le Seigneur. Il ne fait pas un reproche là. Mais certains pensent en fait que le père n'était pas encore tout à fait mort ou pas mort du tout, parce que sinon il serait au funérailles. Il ne serait pas là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ou alors d'autres pensaient que peut-être il attendait l'héritage. Donc, le Seigneur ne remet pas en question le fait qu'on aille enterrer nos morts, évidemment. Mais derrière, il y avait une autre pensée. Simplement. Et ce disciple montre comment le cœur, des fois, trouve des excuses. Hein? On trouve toujours des excuses pour ne pas aller à l'église ou pour ne pas suivre le Seigneur, pour ne pas lire sa Bible. Ou alors, il y a quelque chose à l'extérieur, mais on arrive toujours à négocier avec Jésus-Christ. On est des super négociateurs. Je ne sais pas si vous le savez, hein? Mais on négocie énormément avec Dieu. Et on est même prêt à se mentir, des fois, tout simplement pour ne pas suivre Jésus-Christ. En fait, on est en train de créer notre propre Dieu. Ce n'est pas Dieu, ça. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. On se crée notre propre Dieu, même en tant que chrétien, des fois. Et donc, forcément, ça devient grave à un moment, parce que des fois, on croit que Dieu est d'accord avec moi, mais ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'il est forcément d'accord ou pas d'accord avec moi. La Bible dit ce qu'il faut faire. Donc, voilà, à nous de lire la Bible et de savoir ce que Dieu veut. Mais si nous nous excusons, Dieu connaît nos cœurs. Ce n'est pas parce qu'il ne fait rien aujourd'hui qu'un jour, il ne fera pas le reproche. Il y a cette paralysie parfois chez le disciple du d'abord. Il faut d'abord faire quelque chose avant de suivre Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que le disciple donne le titre à Jésus de Seigneur. Il est fou. Parce qu'il dit à quelqu'un Seigneur, et un Seigneur, c'est quelqu'un qu'on suit, tout simplement. Mais il dit, mais d'abord, je vais faire quelque chose d'autre. Il place ses propres désirs en premier et ne place pas Jésus en premier dans sa vie. L'homme voulait suivre Jésus. L'intention était bonne. Mais il y avait d'autres choses. Alors, certainement que ce n'était pas l'enterrement que Jésus fait le reproche. Il y avait certaines d'autres choses, et Dieu connaît nos cœurs. Mais il y a quelque chose qui l'empêchait de mettre Jésus en premier. Et dans nos vies, je pense qu'il y a souvent aussi beaucoup de choses qui empêchent de mettre Jésus en premier. Jésus est très dur, là, en fait. Il est très dur, mais il est vrai, et c'est ce qu'il nous demande. Mais il est radical, parce que la consécration est quelque chose de dur et de radical. C'est pas devenir musulman et se tuer, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais il y a cette consécration, elle est radicale. Il n'interdit pas l'enterrement, mais parce que lui-même va aller pleurer Lazare hein, quand il est mort. Plus court des versets, Jésus pleura. Mais il est radical dans le sens où si on est disciple, on veut le suivre pleinement. Par exemple, il faut savoir que en temps de guerre, quand Il y a la guerre, normalement, l'État vous interdit d'aller faire vos enterrements, etc. Et vous êtes obligé d'aller à la bataille. Je ne sais pas si vous le saviez. Par exemple, les sacrificateurs aussi, à l'époque, ne pouvaient pas enterrer leurs propres parents. C'est dur, quand même. Hein. Donc, si certains sont capables de nous le demander et on va le faire, dans certains cas, on doit aussi, nous, accepter de suivre Jésus-Christ. Pas de faire l'enterrement, on s'entend. Mais à un moment, il faut s'y passer à suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus montre que là, ce qui est prioritaire, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Et surtout à ce moment-là, quand lui, il était là. Et donc, si je veux suivre Christ, je suis prêt aussi à des sacrifices, des fois légitimes, peut-être, mais il y a une priorité qui est donnée là, annoncer la bonne nouvelle. Il dit donc à ce disciple, laisse les morts ensevelir leurs morts. En fait, Jésus veut dire, laisse les morts spirituels, en fait. Ensevelir les morts physiques. On va enterrer nos parents, on est bien d'accord, c'est pas ça. Mais ces gens-là sont morts spirituellement, ils n'ont pas envie de me suivre, ils vont faire ce qu'ils ont envie. Mais toi, tu es un disciple et tu es vivant spirituellement, et tu dois justement me suivre. Et moi, je suis la priorité, l'annonce de l'évangile est la priorité. Il rappelle l'urgence et la priorité d'annoncer la bonne nouvelle. Tous les jours, comme je dis souvent, il y a combien de milliers de personnes qui partent en enfer dans l'attentat qu'il y a eu. Je ne sais pas s'ils étaient convertis, mais ils sont... je ne sais pas où, hein, tous les jours. Et alors, c'est là où Jésus veut nous dire, ok, on vit tranquillement notre vie de disciple, mais en attendant, on n'annonce peut-être pas suffisamment le royaume, et il y a plein de gens, à cause de ça, qui n'entendront jamais parler de Jésus. Jésus n'a pas besoin de nous, mais se plaît à nous faire travailler avec lui. Il y a une urgence, là, et c'est important d'y penser. Et peut-être nos loisirs, ce qu'on fait, peut-être, qui ne sont pas toujours utiles, peut-être qu'on pourrait les remplacer par l'urgence, justement, d'annoncer la parole de Dieu. Jésus rappelle là les vraies priorités. Vous savez, on est capable de planifier nos vacances un an à l'avance. Tout le monde le fait. On est capable de planifier tous nos événements. Mais est-ce que vous prenez le temps de planifier tous vos dimanches pour venir à l'église? Je suis sûr que jamais on l'a fait. On sait qu'il y a l'église. Mais est-ce que je planifie ce moment-là? Ou peut-être les autres réunions de l'église. On sait planifier les choses. Mais on voit peut-être que les choses sont plus ou moins importantes. Qu'est-ce qui remplace des fois l'Église? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui remplace l'Église? Est-ce qu'on ne pourrait pas des fois faire les choses autrement? Parce qu'on a toujours des excuses. Il y a toujours quelque chose qui gêne. Et le diable se plaît à le faire. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement une fois? Parce que la question, c'est de savoir, est-ce que c'est important? Ce disciple va mettre Jésus en deuxième position. Et si pour moi, l'Église ou suivre le Seigneur n'est pas important, je mets aussi Jésus en deuxième position. Et pas le premier. Quelqu'un écrivait en parlant de l'exigence de la consécration, il disait « Quel enseignement exigeant !» Il le reconnaît. « Bien peu pourraient le suivre. Beaucoup aimaient être comptés parmi les disciples de Jésus lorsqu'ils nourrissaient de pain et de poisson, mais lorsqu'ils commençaient à parler de la qualité de la vérité spirituelle du royaume et du sacrifice nécessaire qui en découlait, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Il le disait, cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Qui peut l'écouter? C'est exigeant d'être consacré. C'est difficile, je sais, d'être consacré au Seigneur, mais c'est ce que le Maître exige du disciple, tout simplement. Pour nous aujourd'hui, quelles sont nos priorités en tant que disciples? Quand je dis « je suis le Seigneur », est-ce que Jésus peut me dire à n'importe quel moment ben, « suis-moi » Si demain, il vous disait de partir en Corée du Nord pour aller évangéliser la branche, ah, vous dites tous non, mais s'il le faisait, il y en a qui sont là-bas, qui disent oui. Bon, chacun est appelé à faire autre chose, mais il y a des choses beaucoup plus simples. Suis-moi, et le Seigneur nous le dit tous les jours, suis-moi dans le service qu'il nous demande, par le don qu'il nous a donné. Suis-moi dans le culte personnel, ces moments de relation et de prière avec le Seigneur. Suis-moi dans l'évangélisation, etc., etc. Tous les jours, écoutez, le Seigneur vous dit, me dit, suis-moi. Quand quelque chose est vraiment important dans notre vie, on sait s'organiser. Convaincu. Tout le monde sait le faire. Quand quelque chose est important dans ma vie, je sais m'organiser. Mais pourquoi je ne sais pas m'organiser pour Jésus-Christ? C'est qu'il n'est pas important. Alors vous allez dire dans votre cœur, si, il est important. Peut-être pas suffisamment. Parce qu'on sait tout faire correctement. Mais pour Jésus, là, on dit, il est plus coulant. Il n'est pas coulant, Jésus-Christ. Je suis désolé de le dire. Il sait ce qu'on fait, il nous regarde travailler, il nous regarde vivre, il voit notre relation avec lui. Et un jour, comme on l'a dit il y a quelques semaines, nous serons devant lui et nous serons évalués, tout simplement. Moi, j'alerte, c'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Nous nous leurrons nous-mêmes des fois en nous persuadant Parce que Dieu n'envoie pas sa foudre aujourd'hui par notre désobéissance ou parce qu'on ne fait pas toujours les choses comme on veut et on se dit Dieu est d'accord. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien. Dieu est extrêmement patient avec chacun d'entre nous. C'est ça qui est formidable. Il prend son temps et à un moment, il n'y aura pas la foudre qui va vous tomber dessus. Mais à un moment, il donne la fessée, entre guillemets, parce qu'il veut qu'on avance tout simplement avec lui. Le Seigneur nous évaluera un jour devant Christ. Vous pouvez vous penser aujourd'hui être devant Christ. Qu'est-ce qu'il dirait de votre cœur, de votre vie spirituelle, de votre relation avec lui? Est-ce qu'on aurait à rougir ou est-ce qu'on serait fier de nous? Je ne pense pas qu'il y aura grand monde qui sera fier, mais il y a fier et fier aussi. Qu'est-ce que nous pouvons être évalués devant Jésus-Christ aujourd'hui? Le Seigneur nous demande de nous consacrer pour qu'on n'ait pas à rougir. Vouloir suivre Jésus-Christ, c'est d'abord, et cette fois le d'abord il est bien utilisé, vouloir le mettre en premier dans ma vie. Et là, il faut qu'on regarde dans notre cœur, savoir où il est en ce moment. Il est des fois 1,5, 2e, 3e, 4e dans notre vie. Lui, il ne veut pas ça, il veut être le premier dans la vie. Et puis un troisième homme qui va venir, qui va essayer de suivre Jésus, mais il était un peu partagé à un moment. Il répond aussi, cette fois volontairement, comme le premier à l'appel de Jésus-Christ, et il dit « Je te suivrai ». C'est beau d'entendre ça quand quelqu'un dit « Je te suivrai ». Et on l'a tous dit, on le dit dans notre cœur. Il désire suivre Jésus, mais il y a une espèce de contradiction entre « Je te suivrai » et « Laisse-moi d'abord aller faire quelque chose ». Laisse-moi aller faire quelque chose. Je veux te suivre, mais pas tout de suite. L'amour et l'obéissance pour Jésus étaient partagés. C'est une sorte de demi-consécration, un tiers de consécration. C'est pas une consécration, tout simplement. Et c'est d'abord « mais ». On les connaît, les mais. Les chèvres, des fois, mais. Il veut prendre congé de sa famille, c'est légitime, parce que là, il s'engageait un peu avec le Seigneur, il voulait le suivre, et c'est normal. Par exemple, Élie va permettre à Élisée, qui allait prendre le relais en tant que prophète dans l'Ancien Testament, il lui permet d'aller prendre congé de sa famille. C'est normal. Mais là, c'est Jésus. C'est pas un prophète. C'est Jésus qui dit « Suis-moi ». Et le problème du disciple, c'est qu'il était partagé entre Jésus et sa famille. Et là, pour prendre une décision ferme, c'était délicat, c'était difficile. Quand on est partagé, pas forcément qu'avec la famille, mais avec d'autres choses, le travail, avec les loisirs, ou je ne sais pas, ben à un moment, c'est difficile d'être totalement consacré à Jésus-Christ, parce qu'on est partagé. Le disciple consacré n'est pas partagé, et c'est ce que Jésus lui dit. Si on regarde en arrière, on n'est pas qualifié pour être disciple. Et il prend l'exemple de cet homme qui prend la charrue et qui regarde en arrière. Alors moi, je n'ai jamais fait ça, mais j'imaginais faire de la bicyclette de la même manière. À un moment, on va se cracher dans le mur. Et les sillons ne sont pas droits. Et forcément, conduire la tête tournée, ce n'est pas bon pour vous, déjà, c'est pour le torticolis. Mais en même temps, vous ne marchez pas droit. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut une vie droite. Si la famille, comme dit Jésus, les loisirs, le travail et peut-être plein d'autres choses sont des freins, ben, il dit qu'il n'est pas propre au royaume de Dieu. Il ne dit pas qu'il n'est pas sauvé, parce que le salut, il ne le remet pas en question, mais il ne peut pas se consacrer à Jésus-Christ, parce que d'autres choses prennent son temps, et donc il ne peut pas suivre Jésus-Christ, il ne peut pas aller annoncer le royaume de Jésus-Christ, le servir dans l'Église, etc., etc. Quelque chose d'autre prend le pas. Jésus, en fait, là-dedans, même si c'est dur, je reconnais que c'est dur, il veut notre bien. Il sait que marcher vers l'avant avec la tête en arrière, c'est difficile. On va essayer tout à l'heure dans la cour pour voir ce que ça donne. Mais spirituellement, c'est exactement la même chose. Et après, on s'étonne pourquoi on prend les murs. Forcément, si vous regardez derrière et que vous marchez en avant, vous allez forcément vous prendre un mur à un moment. Ou marcher sur deux chemins en même temps, c'est quasiment impossible. Ça, c'est le disciple lambda, on va dire, qui ne veut pas se consacrer. Le Seigneur, lui, il désire une totale allégeance du disciple. C'est normal. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour moi seulement? Il est juste mort sur la croix. Quelques clous, quelques souffrances et porter mon péché, c'est tout. C'est ça, l'aspect proportionnel du chrétien de base. Il est juste mort sur la croix. Mais si on a vraiment compris qu'il est vraiment mort sur la croix, qu'il a pris mon péché, qu'il m'a tellement aimé, comment on ne peut pas l'aimer de cette manière-là? Pourquoi on n'est pas un vrai disciple? Pourquoi on ne le suit pas pleinement? Et en même temps, le Seigneur montre là l'urgence du royaume de Dieu. Parce que le manque de consécration, mon manque de consécration, va nuire en fait à tout mon environnement. Parce que si moi je ne suis pas consacré, je n'ai pas envie d'annoncer le salut à ma famille, c'est pas important. Ou peut-être à mes amis, ou à tous ceux que je croise, puisque ce n'est pas important dans ma vie. Si on troque nos dimanches pour les amis, la famille ou plein d'autres choses, qu'est-ce que les familles vont dire en vous regardant ? Ah, tu vas pas à l'église, donc c'est pas important, tout simplement, pour vous. C'est ça le témoignage qu'on rend aux familles ou aux personnes avec qui on est à ce moment-là. Je dis pas qu'il faut être là tout le temps, on est bien d'accord, je suis pas légaliste. Mais quand même, il y a un témoignage que l'on donne à toutes ces personnes aussi. Et le Seigneur veut justement qu'on soit consacré. Et que quand les gens nous regardent à l'extérieur, nous voient vivre en tant que chrétiens, ils disent, tiens, ça c'est important. Ça c'est important pour eux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important peut-être aussi pour moi. On peut peut-être conduire des gens à Christ de cette manière-là. Pour nous, comment suivons-nous Christ ? On pose la question chacun dans son cœur. Est-ce que mon cœur est partagé ? Et le problème, c'est que quand le cœur est partagé, eh bien, il y a un combat tous les jours. Je sais que je ne suis pas le Seigneur comme il faut. Et donc, il y a la culpabilité, forcément, le diable. Ou alors, si vous ne culpabilisez pas, alors là, c'est très grave, quelque part. Parce qu'on peut s'en foutre complètement, et là, le Seigneur le voit. Ou alors, on va culpabiliser, mais le fait d'avoir simplement le cœur partagé, ça ne fait pas ce que... Enfin, ça ne produit pas la paix que le Seigneur veut dans notre vie. Celui qui veut vraiment être disciple, qui suit vraiment le Maître, lui est en paix, justement, parce qu'il fait ce que Dieu lui demande. Le Seigneur nous laisse là trois hommes, trois obstacles, on pourrait dire, aussi du disciple, et dans la vie chrétienne, le matériel, parce que ça, c'est un gros obstacle chez le chrétien, bien souvent, les occupations ou le travail, alors il faut travailler, je sais, mais des fois, il faut faire un choix, la famille ou les amis, ou peut-être les loisirs, on pourrait rajouter un tas de choses, qui sont là comme des obstacles bien souvent. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas avoir une maison, Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'occupation ou un travail, il ne dit pas qu'il ne faut pas aimer sa famille ou ses amis, il dit simplement, il y a quelque chose de proportionnel à avoir là-dedans. Et si je veux le suivre vraiment, parfois, ben, il va falloir quitter des amis. J'ai dû quitter beaucoup d'amis parce qu'ils ne faisaient pas ce que Christ faisait, tout simplement, et je ne pouvais pas les suivre. Peut-être que je dois quitter un travail parce qu'on me demande à un moment de tricher, tout simplement. Moi, j'ai fallu le quitter à un moment à cause de cela. À un moment, si on est consacré, on veut suivre absolument Jésus-Christ et faire ce qu'il veut. Jésus veut des disciples loyaux. Il ne les veut pas pour être loyaux, mais il les veut parce que lui l'a été. C'est tout à fait normal, non ? Si Jésus était loyal vis-à-vis de son Père, il allait jusqu'au bout, il a même hésité un moment à Gethsémané, il y a eu un combat terrible. Eh bien, pourquoi nous, on n'aurait pas des combats des fois quand on le suit, hein ? On est bien en France quand même, hein ? Franchement. On souffre pas trop, mais à force de pas trop souffrir, on se laisse aller. Et la consécration, c'est juste une petite option de temps en temps. Vous verrez s'il y a la persécution. Là, on va parler d'autre chose, de vie chrétienne, ce que c'est. De faire des kilomètres pour pouvoir se rassembler, comme on le faisait pendant cette période de la réforme. D'être prêt à mourir pour suivre Jésus-Christ. Ça, c'est consacré vraiment pour Jésus-Christ. Jésus exige une consécration sans partage du disciple, tout simplement à cause de l'urgence de la bonne nouvelle. Non seulement parce qu'on veut être un disciple dont Jésus est fier, mais en même temps, il montre qu'on doit annoncer la bonne nouvelle parce qu'il y a une urgence. Tant de gens ne connaîtront pas le Seigneur. C'est leur responsabilité, mais on a aussi notre part dans ce travail-là. Et si je ne suis jamais là pour faire ce travail-là, peut-être le Seigneur nous fera aussi le reproche à un moment. Ce n'est pas d'aller évangéliser, forcément les traiter comme on le fait, mais vous êtes sur un lieu de travail, vous avez une famille, vous avez des amis, c'est là où vous avez votre champ, c'est là où le Seigneur veut qu'on soit consacré et que l'on démontre notre amour pour lui. Pour terminer, la consécration, c'est facile. Qui veut être consacré, là ? Hein ? Ben, on devrait tous lever la main, parce que ce n'est même pas une option. Jésus n'a jamais dit que la consécration, c'est une option. C'est le Maître qui dit... Voilà, disciple, c'est ton programme. Un peu comme quand on va à l'école au départ. C'est ton programme. C'est ce que je veux pour toi, que tu te consacres pleinement à moi et que tu me suives. La consécration, ce n'est pas aussi une bonne intention. Ah, j'ai envie, je te suivrai, j'ai envie. Non, le Seigneur dit que c'est un appel et c'est un ordre aussi qu'il donne à son disciple. Quand, à l'époque, un maître disait à son disciple quelque chose, le disciple, qu'est-ce qu'il faisait ? On va négocier, hein, maître, on va voir. Allez, on passe à un autre disciple. Heureusement que Jésus n'est pas comme ça et qu'il est patient avec nous, mais l'appel, l'ordre qu'il nous lance, est à la même valeur. Oui, suivre Jésus, c'est un sacrifice. Et un grand missionnaire connu, David Livingstone, disait non, c'est un sacrifice ou plutôt un privilège. On parle du sacrifice que j'ai fait en dépensant en Afrique une grande partie de ma vie. Peut-on appeler un sacrifice ce qui n'est que l'acquittement d'une petite partie de la grande dette envers notre Dieu que nous ne pourrons jamais payer Est-ce un sacrifice que ceux qui apportent avec soi sa réponse bénie, la conscience de bien faire, la paix de l'esprit et la grande espérance d'une glorieuse destinée? Laissez ce mot, abandonnez cette idée, à vrai dire, il n'y a pas de sacrifice, mais dites plutôt qu'il y a un privilège. Je n'ai pas fait un sacrifice, nous ne devons pas parler de cela, nous rappelons le grand sacrifice que Jésus-Christ a fait, laissant le trône de son Père pour se donner lui-même pour chacun d'entre nous. Ça, c'est un sacrifice. Si vous êtes prêt à mourir éventuellement pour les autres, je veux bien, mais personne ne le fera. De toute façon, ça ne servira à rien. Mais ma consécration, c'est ce que le Seigneur veut. C'est un privilège d'être enfant de Dieu, on l'a dit tout à l'heure. On aime bien les termes, on aime bien faire partie de la famille de Dieu, mais c'est un privilège aussi de se consacrer à Jésus-Christ. Et ma consécration, tout simplement, va démontrer si j'aime, oui ou non, à moitié, passionnément ou pas, Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide dans ce travail de consécration et qui nous reprenne peut-être ce matin et nous donne envie de vraiment le suivre. On va prier. Seigneur, merci pour ces trois hommes qui nous rappellent étrangement nos propres cœurs, Seigneur, l'un ou l'autre, mais tu nous connais et nous avons tous énormément d'excuses à te présenter pour ne pas te suivre, pour ne pas consacrer pleinement notre vie. Pour ne pas aller à l'église, pour ne pas te servir, pour ne pas étudier ta parole, pour ne pas prier. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes ces excuses qui n'ont aucune valeur et que tu connais en plus, Seigneur. Apprends-nous à nous consacrer comme toi tu as tout donné pour chacun d'entre nous. Apprends-nous à vraiment contempler cette croix, à regarder à ton œuvre magistrale que tu as fait à Golgotha, pour nous stimuler, pour que nous soyons reconnaissants et que nous ayons envie tout simplement de te suivre tous les jours, Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile et il y aura des combats, des difficultés, des amis, on a dit, peut-être à quitter, des mauvaises habitudes, Seigneur. Mais tu veux nous aider et si tu es notre maître et si nous nous disons disciples, ben, nous voulons tout simplement t'obéir, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous ce matin et que tout soit fait pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen.